Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Yoma d'Afret à la 13e ligne. Nema anetanei ka anetanei. On a vu hier une machloket emoraim qui en fin de compte on a mis en parallèle avec une machloket tanaim, à savoir est-ce que Touma ou Trabe Tzibour ou est-ce que c'est Trouya, c'est-à-dire est-ce que c'est complètement permis ou c'est passablement accepté, c'est quelque chose qui est bédiavad. Est-ce qu'on pourrait dire que la machloket qu'on a vue hier ressemblerait, serait parallèle à la machloket qu'on va voir aujourd'hui d'Etania, Echadze vechadze, Mazin alav kol shivam kol chatao shayusham. On a vu que le Kohen Gadol, quand il était retiré de chez lui, que ce soit pour la préparation de la paradoma, de la vache rousse, ou que ce soit 7 jours avant Kippour, il devait subir une aza pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on allait prendre de l'eau qui purifie, de l'eau qui purifie d'une toumatmet, quelqu'un qui était en contact avec un mort doit passer par cette purification, à savoir mélanger de l'eau de source avec des cendres de paradoma. Et donc, on lui faisait cet hasard, donc jeter de l'eau, l'asperger d'eau, pendant 7 jours. Normalement, on doit le faire le 3e et le 7e jour de la Touma, comme on va développer aujourd'hui. Là, on lui faisait tous les 7 jours. On va voir dans la Gemara pourquoi est-ce qu'on le faisait tous les 7 jours. D'après Rabbi Meir, que ce soit le Kohen Gadol de Yom Kippour ou que ce soit le Kohen Gadol de Paradouma, les 7 jours de préparatif, les 7 jours en stand-by où il est avant la Avoda qu'il doit faire au Beit HaMikdash, on va lui faire cet haza, Mikol Hatot. On a vu qu'il restait des cendres de toutes les paradoumas qui étaient faites, on l'appelle Hatat, on l'a vu aussi au début de la Maseret, toutes les vaches rousses qui avaient été faites, et des cendres étaient conservées, et on utilisait toutes les cendres pour Kippour ou pour paradoumas. Dit Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, El Mazin, Elav, Elash, Lechiv, Echvi, Bilvad. Rabbi Yossi nous dit, on fait que le 3e, le 7e jour, comme c'est en vérité Meikaradin, quelqu'un qui est impur, 3 jours après son impureté, et le 7e jour, on va lui faire cet hasard. Donc Rabbi Yossi nous dit, on le fait comme la halakha demande de le faire en général, à savoir 3e et 7e jour. On va expliquer la machloka dans la Gemara. Rabbi Chaïnas Ganakon, Yomir Kohen, Asar Feta Parlama, Amazin Alav Kol Shiva. Au sujet de celui qui se prépare à brûler la vache rousse, lui, on va lui faire une hasard 7 jours avant, tous les 7 jours. Alors qu'au sujet de Yom Kippour, Kohen Gadol Yom Kippour, Mazin Alav Lashlishi Veshvi. Donc il fait une différence entre Kippour et Paradouma, à savoir Kippour, on va se suffire du 3e et du 7e jour, comme nous a dit Rabbi aussi. Pour la Paradouma, on va faire 7 jours, comme nous a dit Rabbi Meir. Maïlav Beakam Flege. N'est-ce pas que la Machloket est justement à ce niveau-là? Rabbi Meir Savar Touma Trouya Betzibour. Rabbi Meir pense que la Touma est Trouya Betzibour, c'est-à-dire qu'elle est seulement acceptée, qu'elle est seulement Bediavad acceptée. Et donc, puisqu'il y a un chachash touma, puisqu'il y a un risque de touma, on ne veut pas courir ce risque. Ah, tu vas me dire, mais bon, mais c'est pas grave. L'avoda du Kohen Gadol, c'est une avoda publique, et donc on peut comprendre que de toutes les façons, ça sera accepté. C'est vrai, ça sera accepté. Mais les khatrila, on ne veut pas, et c'est pour ça que on va lui demander de faire une haza tous les 7 jours. Pourquoi est-ce que tous les 7 jours? Tout simplement, puisqu'on sait que la halakha initiale, c'est le 3e et le 7e jour. Mais nous, on suppose qu'il a une touma. On ne sait pas s'il a une touma. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'est le 3e jour, et donc on ne sait pas non plus quand est-ce qu'est le 7e jour. Lui, 7 jours avant, il est retiré. Pendant les 7 jours d'avant, je sais qu'il n'y a pas eu de touma. Mais il y a eu peut-être avant. Donc, peut-être que le premier jour de son retrait, c'est le 3e. Peut-être que le 2e jour, c'est le 3e. Peut-être que le 3e jour, c'est le 3e. Donc, on ne sait pas exactement quel est le 3e jour. C'est pour ça qu'on va lui demander de faire le 1er, le 2e et le 3e jour. Pareil pour le 7e jour. Si le premier jour était le 3e, alors le 5e jour et le 7e. Si le 2e jour était le 3e, alors le 6e jour et le 7e, etc. On verra dans la Gemara pour le 4e jour. Ne vous en faites pas, j'ai fait exprès de sauter. On verra dans la Gemara. En tous les cas, d'après Rabbi Meir, on pourrait dire que Touma ou Trouya Betzibour, la Touma, elle est seulement acceptée Bediavad. Et c'est pour ça que le Khatrila, on ne prend pas de risque. Et c'est pour ça qu'on lui dit, bon écoute, pour être sûr que tu es Tahor, on va te faire le maximum. On va prendre toutes les possibilités, mais on va te purifier. Alors que d'après Rabbi aussi, ça va, Touma est terrible, Betzibour. La Touma, elle est Outra Betzibour, c'est-à-dire qu'elle est véritablement permise, il n'y a aucun problème. Ah, alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on fait une hasard? Ça ne nous dérange pas que tu sois impur. Non, parce qu'il y a marqué qu'on a fait une parallèle entre Yemé Amilouim, les 7 jours avant l'intronisation du Mishkan, et les 7 jours avant Kippour, c'est seulement pour cette raison qu'on va te mettre en retrait, c'est seulement pour cette raison qu'on te fait aussi une hasard. Donc c'est pour ça, hein, nous dit la Gemara, qu'on pourrait comprendre la machloket de Rabbi Meir Rabbi aussi. D'après Rabbi Meir, on ne veut courir aucun risque, donc on va lui demander de faire hasard 7 jours. D'après Rabbi aussi, il n'y a pas de risque à courir, puisque c'est un korban tzibour, puisque c'est une avoda tzibour, Touma ou Trab tzibour, elle est complètement permise. Alors après, est-ce qu'on fait hasard? On fait le minimum, comme Yemé Amilouim. Demande la Gemara, non. Vitis bera, il se va rabbi aussi et terrible. Si vous rasez la lamali. Si Béhéma, tu penses que Touma ou Tara Betsibour. Alors pourquoi est-ce que la Haza qu'on fait serait le troisième et le septième jour? Le troisième et le septième jour, c'est dans un cadre de Halakha de venir purifier. Mais on n'a pas besoin de purifier, puisque tu penses que Tara Betsibour, puisque c'est complètement permis. Tu me dis, oui, j'apprends Haza de Yemé Amilouim. Ok, alors fais comme Yemé Amilouim, à savoir, fais-le pendant 7 jours. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes à 3 et 7 jours? Donc, nous dit la Gemara, d'après ton explication, elle est bonne d'après Rabbi Meir, mais non pas d'après Rabbi aussi. Et là, découle Alma, elle est anaïs à vous, Touma Trouya Betsibour. La vérité, tout le monde pense que Touma Trouya Betsibour, c'est-à-dire qu'elle est seulement acceptée Bediavad. Et donc, on prend en considération le risque qu'il soit impur et il faut faire attention à le purifier. Ve'achab be'akamifleg, Rabbi Meir Sevar, Amonan, Tfila Bismana Mitzvah, Rabbi aussi Sevar, Lula Amonan Tfila Bismana Mitzvah. Quelqu'un qui doit se purifier, est-ce qu'il a l'obligation de le faire immédiatement quand il peut le faire ou pas? Cette question, on se la pose aussi pour une femme qui est Nida, par exemple. Est-ce qu'elle est obligée d'aller au mikvé le soir où elle peut déjà y aller, mis à part l'obligation de procréer, donc d'avoir des enfants? Et donc, tant que quelqu'un n'a pas d'enfant, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de repousser un lel à mikvé, il n'a pas le droit de repousser une soirée du mikvé. De la même manière, mis à part ça, même s'il a déjà des enfants, si on pense que Tevila Bismana Mitzvah, si on pense que c'est une mitzvah de se purifier immédiatement, donc on devrait immédiatement se purifier. C'est là la marloquette de Rabbi Meir, Rabbi aussi. Rabbi Meir, ça va, Amrinan, Tevila Bismana Mitzvah. La Tevila, le process de purification, il doit être fait immédiatement. Et puisqu'on peut le faire immédiatement, on doit le faire. Maintenant, on ne sait pas c'est quand immédiatement. On a un safek. Nous, on suppose que peut-être il est impur et c'est pour ça qu'on veut le purifier. Donc, nous dit Rabbi Meir, le premier jour, on lui fait une Haza. Pourquoi? Parce que peut-être il y a 3 jours, il s'est rendu impur. Et donc, c'est immédiatement qu'il faut le faire. Peut-être il y a 2 jours, et donc c'est le deuxième jour. Peut-être il y a 3 jours, et donc c'est le troisième jour. Et donc, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il est impur, on dit, tu sais quoi, on ne prend pas de risque, on lui faire tous les jours pour gagner la mitzvah, de le faire en temps et en heure. Ah bien, si ça va là, on a vu la bismana mitzvah. C'est pas obligatoire de le faire immédiatement. Tu vas le faire à un moment ou à un autre, tu vas garder les distances entre le troisième et le septième jour, ça me suffit. Donc, pour moi, fais le troisième et septième jour. Ah, tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'il était déjà le premier jour où il était en retiré de chez lui, c'est le troisième jour. C'est pas grave, t'as rien perdu. Ça n'est pas une obligation de le faire immédiatement. Et donc, d'après Rabbi aussi, on se suffit du troisième et du septième. D'après Rabbi, on devrait le faire tous les jours. L'Agma demande, ça va Rabbi aussi, loa, mona, tvila, bismana, mitzvah. Quand Rabbi aussi pense que la tvila, bismana, n'est pas une mitzvah, pour toi, elle est marquée. Hare, shayesh, hachem, katou, al-besaro. Quelqu'un qui a écrit le nom de Dieu sur sa peau, il n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Il n'a pas le droit de se laver. Il n'a pas le droit de se mettre de c'était la source, c'est mettre de l'huile, c'est mettre une pommade qui va être une pommade un peu grasse sur la peau qui risque d'effacer le nom de Dieu qui est marqué sur son corps. Il ne peut pas aller dans un endroit qui est sale, un endroit par exemple comme les toilettes. Tu n'as pas le droit d'entrer le nom de Dieu là-bas. Nisdamalot village el mitzvah. Si il doit se purifier, korech alav gemi. Il va mettre dessus un morceau de du jonc, quelque chose qui pourrait empêcher l'eau de rentrer. Vetovel, et seulement après il pourrait se tremper. Un vieux siomer, il y aurait le Vetovel Kedarko. Mais c'est dit non, il va se tremper au bilvad chez l'eau et chef, il n'a pas le droit de frotter l'endroit où se trouve le Shem Hashem, Vekaimalan. Et donc pourquoi est-ce que d'après Rabbi aussi, l'Agma explique tout de suite, Vekaimalan. On a déjà expliqué autre part, ensemble on l'a déjà étudié, des Betvila Bismana Mitzvah Kamiflege. La machloket, elle est, est-ce que Tvila Bismana Mitzvah, c'est-à-dire est-ce que c'est obligatoire de le faire immédiatement? Tana Kama Savar, Loa Monan Tvila Bismana Mitzvah. Puisque lui pense que ça n'est pas une mitzvah de le faire immédiatement, donc c'est vrai que je lui ai mis un problème. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu fasses attention à ne pas effacer le Shem. Ah, mais peut-être tu ne vas pas trouver ce morceau de jonc qui va le protéger. D'effacer le nom d'Hachem, et donc il va retarder cette tvila, ça ne me dérange pas. Il n'a qu'à retarder, parce que tvila bismana lave mitzvah. Ça n'est pas obligatoire de le faire immédiatement. Ah bien, si ça va, madame, tvila bismana mitzvah. Il nous dit, c'est une mitzvah de le faire immédiatement. Et toi, maintenant, tu lui compliques la vie, tu lui dis, attention, tu ne peux pas le faire, seulement si tu as fait attention à protéger ta main, etc., à protéger le nom de Dieu. Donc c'est pour ça que Rabbi Yossi nous dit que il n'a pas l'obligation de le mettre autour de lui, parce qu'il ne veut en aucun cas qu'il retarde la mitzvah qu'il a de la tremper. En tous les cas, d'après Rabbi Yossi, on voit que Tvila Bismana Mitzvah. Comment est-ce que chez nous, tu voudrais expliquer que la marloquette, elle est, est-ce que Tvila Bismana Mitzvah ou pas? Et Rabbi aussi serait celui qui pense que Tvila lave Mitzvah, qu'il n'y a pas de Mitzvah de le faire immédiatement. Ce serait une contradiction frontale entre les deux Rabbi aussi. D'un côté, chez nous, tu voudrais dire qu'il pense que ce n'est pas une obligation, alors que dans Shabbat, on sait, dans la Sechet Shabbat, on a vu que Rabbi aussi pensait que c'était oui une obligation. Et là, découle l'année, d'après tout le monde, Amrinan, Tvila Bismana Mitzvah. C'est vrai, tu as raison. Chez nous, Rabbi Meir et Rabbi aussi pensent qu'il y a une obligation de le faire en temps et en heure. La marloquette, elle est à un autre sujet. Rabbi Meir, savoir Makshinan Azal et Tvila. Rabbi aussi savoir le Makshinan Azal et Tvila. Rabbi Meir nous dit qu'on fait une parallèle entre Azal et Tvila. C'est-à-dire, on a vu une marloquette, est-ce que Tvila Bismana Mitzvah, ce qu'on a vu dans Maseret Shabbat, est-ce que se tremper dans un mikveh, en temps et en heure, c'est une mitzvah. Rabbi Meir pense que de la même manière que c'est une mitzvah là-bas, alors dans Azal aussi, c'est une mitzvah. On fait une parallèle entre les deux, puisque dans les psukim de purification, ils sont marqués l'un à côté de l'autre. Rabbi aussi savoir, l'omakshina nazaletvila, on ne fait pas cette parallèle-là, et puisque ça n'est pas une mitzvah de le faire immédiatement, on revient à notre explication initiale, à savoir, c'est pas une obligation, et bien on se suffit du troisième et du septième jour. Ah, c'était peut-être hier le troisième, et alors, il n'y a rien qui me pousse à l'obliger à faire en temps et en heure le troisième jour. Verabi chalinas ganakonim. Nous dit la Gemara, on l'a compris Rabbi Meir Rabbi aussi. Est-ce que Azaa Bismana Mitzvah, est-ce que le processus de purification fait par l'aspersion d'eau, de Mechatat, de Mepara, est-ce que c'est une mitzvah de le faire en temps et en heure? Ça, on l'a compris. D'après Rabbi Chayenas Gonakoanim, on a un paradoxe. Si tu penses que c'est une mitzvah, alors autant un Kohen de Kippour qu'autant un Kohen de Para, on devrait lui faire les 7 jours. Si tu penses que c'est une mitzvah, alors, que c'est pas une mitzvah, alors ni l'un ni l'autre ne devrait faire les 7 jours. Et Rabbi Chayenas Gonakoanim nous a dit que quand c'est pour Yom Kippour, on n'a pas besoin de tous les 7 jours. Mais quand c'est pour Para, demain, on a besoin de tous les 7 jours. Comment est-ce que tu vas m'expliquer ça? La Gemara nous dit l'Olam le Makish. Mais Emet, il pense que c'est pas une mitzvah. Et donc, il n'y a pas d'obligation. Et donc c'est pour ça que la veille de Kippour, on lui fait que le troisième et le septième jour. Mais Kohen Serev Taparama à la Balma, rappelez-vous ce qu'on a vu au sujet du Kohen qui brûlait la Paradouma. Sachant qu'on avait un problème avec les Tzedukim, qui n'étaient pas d'accord avec une dracha de Chachamim qui disait qu'un Kohen qui était Tvulium, c'est-à-dire qui venait de se tremper alors qu'il n'avait pas encore passé une nuit après s'être trempé, d'après Chachamim, il était kasher pour faire la para. D'après les Tzedukim, il n'était pas kasher. Alors le Chachamim, pour être possèque, halakha, pour trancher la halakha, ils ont dit on va prendre ce Kohen, on va le rendre impur et c'est lui qui va faire la para. Alors ça nous crée un autre problème, ça nous crée un déséquilibre. Les gens, quand ils voyaient ça, il y avait un manque de respect pour la para, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était moins grave, on n'avait pas besoin d'être pur. Alors c'est pour ça qu'on a fait plein de chumrot pour que rééquilibrer, pour donner l'importance et la zéhirut, l'attention qu'on doit avoir à ne pas se rendre impur pour la paradoma. Et une des chumrot qu'on a rajouté, allez hop, on va faire Azal les 7 jours, comme ça, hein, ça va rééquilibrer ce que Chachamim ont institué, de le rendre impur le jour où il allait le faire. Keman Azla, nous dit la Gemara, après avoir expliqué la marloket Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Chayin, Azgan HaKohanim, on ramène une braïta, et on se pose la question. Keman Azla, Detanu Rabbanan, d'après quel avis va ce qui est enseigné dans cette braïta, en ben HaKohen Asafa Asoref et Tapara, les Kohen Gadol Yom Kippourim, la seule différence qu'il y a entre le Kohen qui brûle la vache rousse et celui qui va faire le travail de Kippour, et là, la seule chose qu'il y a, Zepri Shato Legdusha, Vecha Vakohanim Logimbo, la pricha du Kohen Gadol, le retrait du Kohen Gadol pour Kippour, il est seulement pour Ligdusha. C'est passé par pour le rentrer dans un système de crainte et de hira, de respect, avant de rentrer au Makom Kadosh, au Kodesh HaKodashim. Et donc, Echav HaKohanim Noginbo, donc ses frères Kohanim peuvent le toucher, parce qu'on ne prend pas en considération un risque d'impureté, même si un des Kohanim le touche et il est impur, ça ne nous dérange pas. Par contre, Zeprichato le Tahara, par rapport à Paradouma, comme on l'a vu dans la Braïta auparavant, l'importance de le retirer, c'était pour donner un inyan de Tahara, pour dire attention, il faut faire la Paradouma quand on est pur. Et c'est pour ça que Echava Kohanim, c'est pour ça que En Echava Kohanim le Gimbo, c'est pour ça que ses frères Kohanim ne peuvent pas le toucher. C'est-à-dire, c'est encore une Khumra qu'on a fait pour dire attention, il faut qu'il soit à 100% pur. Keman, d'après qui ça peut aller? Au Rabbi Meir, au Rabbi aussi. Ça peut aller d'après les deux avis qu'on a vus dans notre Braïta, qui mettent sur un pied d'égalité Kippour et Paradouma. Ou à savoir, d'après Rabbi Meir, tous les 7 jours, on va faire Aza, d'après Rabbi aussi, le 3e et le 7e. Mais d'après Rabbi Chayinas Ganakoanim, qui fait une différence entre la Paradouma de Yom Kippour et la Paradouma, et Yom Kippour la Paradouma, 7 jours avant, on fait Aza. Yom Kippour, on ne fait que 3 jours et le 3e et le 7e jour. Alors Rabbi Chayinas Ganakoanim, Haïkanamea, dans cette barita qui vient qui nous dit, sache que les seules différences qu'il y a entre ces deux Koanim, c'est ça. C'est pas vrai. D'après Rabbi Chayinas Ganakoanim, il y a une seconde différence, à savoir, quand est-ce qu'on lui fait l'aza? Donc c'est pour ça qu'on pourrait interpréter cette braïta seulement d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yossi. Matifla, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. On a laissé quelque chose en stand-by à ce sujet, ce que la Gemara va expliquer tout de suite. On a expliqué... Pardon. On a expliqué pourquoi est-ce qu'on allait faire Aza tous les 7 jours. Mais on l'a expliqué vaguement. On a 7 jours où le Kohen est en retrait. Pourquoi est-ce qu'on va lui faire les 7 jours? Parce qu'il y a une obligation de lui faire le 3e et le 7e jour. Pour faire le 3e et le 7e jour, le 7e jour ne peut être habillé que sur le 3e. C'est-à-dire que le 7e, il n'est fait que si tu as fait le 3e jour. Si tu n'as pas fait l'Aza du 3e jour, tu ne peux pas faire l'Aza du 7e jour. Après qu'on connaît cette règle, alors on sait pourquoi est-ce qu'on va faire 1, 2, 3. Pourquoi est-ce qu'on fait 1, 2, 3? Parce que ce 1, 2, 3 peut être le troisième jour d'une Touma qu'il y a eu avant son retrait. C'est-à-dire, je lui fais la Aza le premier jour de son retrait parce que c'est peut-être le troisième jour. Je lui fais une Aza le deuxième jour parce que c'est peut-être le troisième jour, parce que peut-être 2 jours auparavant il y a eu un problème. Je lui fais une Aza le troisième jour parce que peut-être juste avant d'avoir été retiré de chez lui, c'est là qu'il s'est rendu impur. Maintenant, je comprends par rapport à ça que le 5e, 6e et 7e jour, je fais aussi une Aza, puisque ça serait le 7e jour du 1er, du 2e et du 3e. Mais le 4e jour, il est incompréhensible. En tant que quoi, je vais faire le 4e jour? En tant que 3e jour, je ne peux pas, parce que je sais qu'il a été en retrait, donc je sais ce qui s'est passé pendant ces jours-là, donc je sais qu'il n'est pas impur. En tant que 7e jour, peut-être que 4 jours avant la Prisha, 3 jours avant la Prisha, il y a eu un problème. Tu ne peux pas lui faire une Aza du 7e jour, alors que tu n'as pas fait celle du 3e jour. Donc si le 4e jour de son retrait est le jour numéro 7, où est-ce qu'il est le jour numéro 3? Avant qu'il ait été rentré, avant qu'il soit retiré de chez lui. Mais là-bas, on n'a pas fait de Aza. Donc on dit la Kalagmara, pourquoi est-ce que tu nous dis de faire une Aza pendant 7 jours? Je comprends les 3 premiers, je comprends les 3 derniers, je ne comprends pas le jour du milieu. On le lit dans les mots. Matifla, Rabbi Yossi, Rabbi Chanina. Bishlama, Rishon, le premier jour, Shema Shlishi, c'est peut-être le 3e jour de son impureté. Sheni, le 2e jour de son retrait, c'est peut-être Shema Shlishi, le 3e jour de son impureté. Shlishi, le 3e jour de son retrait, Shema Shlishi, peut-être c'est le 3e jour de son impureté. Chamishi, le 5e jour de son retrait, Shema Shvi, c'est peut-être le 7e jour de son impureté. Comment? Tu vas le mettre. Donc, où est-ce que tu auras fait le 3e jour? Tu auras fait le premier jour de son retrait, la première Aza, qui serait le 3e jour de son impureté. 4 jours plus tard, le 5e jour, tu vas lui faire une seconde Aza, qui serait donc 7 jours après son impureté. Shema Shvi, Shishi, Shema Shvi, le 6e jour, peut-être c'est le 7e de son impureté. Shvi, le 7e jour de son retrait, Shema Shvi, c'est peut-être le 7e jour de son impureté. Et la Révi, mais le 4e jour, la Mali Aza Aklal. À quoi ça sert de faire une Aza le 4e jour? Ce 4e jour, il ne peut pas être le 3e jour, il ne peut pas être le 7e jour. La Aza ne marche qu'en tant que 3e ou 7e jour. Donc ce 4e, la Aza de ce jour-là, n'a aucun sens. Elle ne peut être ni le 3e jour de son impureté, ni le 7e jour de son impureté, elle n'a aucun sens. L'obéchlichi, Kalesapouke, on ne peut pas supposer que c'est peut-être le 3e jour. L'obéchvi, Kalesapouke, et on ne peut pas supposer que c'est le 7e jour. Le 3e jour, on ne peut pas supposer, parce que ça fait déjà 4 jours qu'il est en retrait. Donc je sais ce qui s'est passé avec lui. L'obéchvi, Kalesapouke, le 7e jour aussi, je ne peux pas le prendre en considération. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas eu 3e jour, on ne peut pas avoir le 7e jour. Donc le définir comme un 7e jour, ça n'a aucun sens, puisqu'il n'aura pas eu la première étape, il n'aura pas eu la première... C'est comme le vaccin du corona, on a besoin des deux manottes, on a besoin des deux parties. S'il n'a pas eu la première, il ne peut pas avoir la deuxième. En fait, la première ne serait que la deuxième. La deuxième ne serait que la première. Et donc, ici aussi, ça n'a aucun sens. Diagma ou Tamir. D'après toi, Aza kol shiva mika. Toi, tu me poses une question, tu me dis, je ne comprends pas le 4e. Ouais, moi, je vais te poser une autre question. Comme un bon juif, je te réponds par une autre question. Est-ce que véritablement, quand la Mishnah a utilisé les termes, on lui fait une Aza pendant 7 jours, est-ce que c'est véritablement ça le sens? Va, on sait très bien que Aza, Shvut, de faire une Aza, d'asperger quelqu'un avec cette eau-là, c'est interdit Midarabanan. Ve'en adocha Shabbat. Et un interdit qui est Midarabanan ne repousse pas le Shabbat. Et donc, c'est sûr que Shabbat, on ne lui fait pas. Maintenant, tu as dit 7 jours, on va l'asperger d'eau. Mais il y a le Shabbat. Et la main est l'achlema. Shiva le bar mi Shabbat. Donc forcément, quand il y a marqué 7 jours, c'est 7 jours dans l'absolu. Mais en vérité, c'est à part Shabbat. Achaname, Shiva le bar mi Revi. Chez nous aussi, quand on a dit que c'était 7 jours, c'est à part le 4e jour, pardon. C'est-à-dire que, quand il y a marqué dans la Mishnah 7 jours, ça sous-entend qu'il y a des. Ça veut dire, on te dit, réfléchis tout seul. Tu te vois bien, Shabbat, c'est sûr, tu ne peux pas le faire. Sache que le quatrième jour aussi, tu ne peux pas le faire, ça ne sert à rien de le faire. Amarava, Ilkar, après que tu m'as répondu ça. Kohen Gadol, bien Makipurim, dès lors, dit Dantel Amilta. Le retrait du Kohen Gadol, il ne dépend pas de nous. Pourquoi? Parce que la date de Kippour, elle est fixée 7 jours avant, tu dois le retirer. Donc, et la Bekiva de Echat, Alemita, ça dépend de la date, ça dépend du moment où on va fixer Rosh Chodesh. Betlata betishre ba el afouché. Il va être en retiré le 3 tishré. Vecholema demitre betlata betishre ba frashinale. N'importe quel jour que tombera le 3 tishré, c'est là qu'on va le retirer. Par contre, Kohen a sera fait apara. C'est lui qui va brûler la paradouma. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'il va la brûler. C'est pas quelque chose qui est décidé. Il n'y a pas une date où il faut brûler la paradouma. Et donc, Bedidan Talyamilta, ça dépend de nous. Ma frashinale berevi bishavat. On va le retirer le 4e jour, c'est-à-dire le mercredi. Qui est écrit des nutrients et Bishwa Shabbat, pour que son 4e jour tombe en Shabbat, comme ça il va gagner, qu'on puisse lui faire la Haza. Donc on va le retirer mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, ça fait 3 jours. Shabbat, c'est le 4e jour. De toutes les façons, Shabbat, on ne peut pas lui faire. Et de toutes les façons, le 4e, on ne lui fait pas. Donc comme ça, on aura gagné les 6 Hazaot. Et puisque ça dépend de nous, on aura gagné toutes ces Hazaot-là. Lishkat Faredrin. Sauf, on va expliquer ce que c'est. Rashi nous dit, Lishkat Faredrin, ici, il nous dit que c'est des Sarim, c'est des Pkidé Améler, c'est-à-dire c'est des. Comment est-ce qu'on appelle ça, ceux qui travaillent dans l'administration, c'est des fonctionnaires. Paredrin, l'ishkat paredrin, c'est la l'ishkat des fonctionnaires. Tania, Amar Abuda, v'chi l'ishkat paredrin, Aïta, est-ce que ça s'appelle vraiment la l'ishkat des fonctionnaires, le bureau des fonctionnaires, valo l'ishkat belvati, Aïta. Belvati, c'est, ça s'entend, belvati, c'est des gens importants, c'est des ministres, des gens qui sont mechoubadim, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et la batterie là, au début, quand Shimon HaTzadik était Kohen Gadol, Hayu Kohen Otal Lishkat Balvati. C'est comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait la Lishkat des gens importants, parce qu'on avait des Kohanim qui étaient importants. Mitor Shinotim Lava Malakimola, mais quand au Bayit Sheni, les gens commençaient à acheter cette charge de Kohen Gadol, ou Marlifinota, quand Shimon HaSacholach, tous les ans, ils mouraient. C'est des gens qui achetaient pour être Kohen Gadol un an, et en fin de compte, ils mouraient. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils venaient s'installer dans sa charge de Kohen Gadol, il retapait cet endroit et il voulait que cet endroit s'appelle sur son nom. Donc, comme on voit dans des bâtiments de Yeshiva, de Kolelim, il y a marqué le nom, alors il voulait que ce soit marqué sur son nom. C'est lui qui a investi de l'argent pour embellir cet endroit. On marque les finotas quand je n'ai pas sa chodage. Donc tous les ans, on renouvelait. C'est comme un maire ou autre qui prend ses fonctions, tout de suite il va investir dans renouveler le bureau, etc. C'est ce qu'il faisait. Alors c'est pour ça qu'on les a appelés Faredrin, qui est Faredrin, à la louche et marifu notan kol shtemesa chodesh. C'est comme ces fonctionnaires qui étaient changés par le roi tous les 12 mois, les fichach, et ukurim notan ishkan Faredrin. Pourquoi est-ce que le roi changeait tous les 12 mois? Peut-être que quand quelqu'un prenait trop de place, c'était dangereux, donc il fallait se faire de la place et ne pas leur donner trop l'envie de s'installer. En tous les cas, c'est pour ça que c'est devenu, ça a commencé à s'appeler l'Ishkat Paredrin, c'est-à-dire qu'on considérait cet endroit comme un endroit de fonctionnaire puisqu'il était changé assez souvent. On va ramener une autre Mishnah où on utilise ce terme-là, Tlanatam, Hanartomim, des boulangers. L'Ochivotam Chachamim la friche et la Tomat Maaser. Chachamim les ont obligés de faire un prélèvement. Seulement Tumat Maaser, Vechala et Afrashat Chala. Un boulanger, il achète de la farine pour faire son pain. Il peut la faire lui-même, mais bon, dans un cas où il a acheté de la farine. Quand il achète de la farine d'un Amaret, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne connaît pas la lachot, qui sont sur cette farine-là. Entre autres, les prélèvements qui doivent être faits. Alors, où il connaît la lachot, il ne le fait pas, ou il ne connaît pas la lachot, en tous les cas, dans tous les cas, c'est un problème. Maintenant, lui, c'est un commerce, il est boulanger et il vend. Il achète la farine de quelqu'un qui n'a pas fait ses prélèvements. Normalement, il devrait faire des prélèvements. On a une appellation à ce genre de situation, c'est ce qu'on appelle d'maï. D'maï, ça veut dire d'maï. Quel est le statut de cette farine-là? On ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, sur les choses les plus graves, on oblige à faire le prélèvement n'importe qui, que ce soit un boulanger ou un privé. Sur les choses les moins graves, comme la Gemara va l'expliquer, on n'oblige pas. Pardon, on oblige à faire le prélèvement. Mais on n'oblige pas la personne à aller les donner à qui que ce soit. Donc, nous dit la Mishnah, Anartomim, ceux qui ont l'habitude, donc les boulangers qui vendent du pain, l'Ochivotam Chachamim, la friche, ils ne sont pas obligés de faire tous les prélèvements. Et la Tourmat Maaser, c'est dans l'ordre, on a d'abord ce qu'on donne au Kohen, la Tourma, ce qu'on appelle la Tourma Gdola, ce que nous on doit donner au Kohen. Après, on a le Maaser Rishon, ce qu'on donne au Lévi. de cette partie qui est donnée au Lévi. Le Lévi doit faire lui un prélèvement qui s'appelle Troumat Maaser, la Trouma qui est donnée par le Maaser, par sur le Maaser. Et en troisième étape, on a ce qu'on appelle Maaser Sheni ou Maaser Ani, ça dépend de quelle année, dans quelle année on se trouve. Dans le Mahzor de la Shemitah, on a des calculs qui sont faits par rapport à la Shemitah tous les 7 ans. Donc la première et la deuxième année, c'est Maaser Sheni, et la troisième, c'est Maaser Ani. Maaser Sheni, c'est quelque chose qu'on doit consommer au Shem, Maaser Ani, c'est quelque chose qu'on donne aux pauvres. En tous les cas, le seul prélèvement qu'on oblige, c'est Troumat Maaser, c'est-à-dire le prélèvement qui est fait par le Lévi en général, sur la part qu'il a reçue du Israël. Donc ça fait à peu près un centième, c'est 1%. Afrashat Chala, donc c'est des choses qu'on doit donner au Kohen Gadol. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'on fait que ces prélèvements-là. Bishlama, Truma Gdola Lo. Je comprends pourquoi est-ce que la Truma Gdola, c'est-à-dire le prélèvement que nous on doit faire pour donner au Kohen, le premier prélèvement, je comprends qu'on n'ait pas besoin de le faire. Alors qu'il est très important, il est très grave. Celui qui n'a pas fait le prélèvement de la Truma, de ce qu'il doit consommer, il n'a pas le droit de consommer cette nourriture-là et il est Chayav Mita, Midei Shamaim, s'il a mangé. S'il a mangé ces fruits-là. C'est pour cela qu'en Eretz Israël, des fruits ou du pain, n'importe des gâteaux par exemple, il faut qu'ils aient une très bonne cacheroute, il faut que les prélèvements aient été faits dans les règles, puisqu'en Eretz Israël, on a cette obligation. Donc, nous dit la Gemara, pourquoi est-ce que la Truma Gdola, je comprends pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de faire ce prélèvement. Les filles, chez Shalach, Mechol Gvoulé Israël, Yohanan Kohen Gadol, c'est lui qui a fait cette constatation que les gens ne faisaient pas les prélèvements. Et il a fait une vérification dans toutes les frontières d'Israël. Verah en Africhin et la Tourmak de la Bilvad. Il a vu que, bien que c'était des Amé Aratzot, bien que c'était des gens qui ne connaissaient pas bien la Lachot ou qui ne prenaient pas les choses sérieusement, la Tourmak de la, tout le monde le faisait. Donc, quand on a une question, comment statuer ces céréales-là, cette farine, on sait pertinemment que même si c'est un Aratz, c'est sûr qu'il a fait les prélèvements. Alvaï, Alenu, l'Amaratim d'une fois, l'Amaratim d'une fois, tout le monde faisait ces prélèvements-là. Maaser Rishon ou Maaser Ani Namelo, Amotsi Mechavero, Alavaraya. Pourquoi est-ce que le Maaser Rishon ou le Maaser Ani, donc la troisième année, pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de prélever? Parce que Amotsi Mechavero, Alavaraya. J'explique. Le prélèvement doit être fait. Il est fait. Après qu'il ait été fait, le Maaser Ani ou le Maaser Rishon peut être consommé par n'importe qui. La Trouma, par exemple, c'est dédié au Kohen. Seul le Kohen a le droit de consommer de la Trouma. Quelqu'un d'autre qui aurait mangé de la Trouma, il est Chayav Mita. Maaser Rishon ou Maaser Ani, c'est une dette que j'ai envers le Lévi ou envers le pauvre, mais cette nourriture-là n'est pas que de chat. Moi aussi, je peux la manger. Elle n'est pas dédiée spécialement au Lévi par rapport à son statut de Gdusha. Elle est dédiée au Lévi par rapport à son statut de propriété, c'est-à-dire que c'est un impôt. Et donc, nous dit la Gemara, tu vas faire les prélèvements. Mais après avoir fait le prélèvement pour pouvoir cachériser cette nourriture, tu as fait le prélèvement, la briote, maintenant tu peux le manger. Ah mais ça ne t'appartient pas. Qui a dit que ça ne m'appartient pas? Peut-être que cette personne qui m'a vendu la farine n'a pas fait le prélèvement. On a une règle. En termes d'argent, Amotsi Mechavero Alavaraya. Toi, monsieur Lévi, tu me dis, j'ai vu que tu as acheté une tonne de blé. Ben, il faut passer à la caisse. Ah ouais, pourquoi? Parce que peut-être celui qui te l'a vendu n'a pas fait le prélèvement. Eh ben, avec peut-être, tu ne vas pas aller très loin. Parce que peut-être c'est pas une preuve, et si c'est pas une preuve, tu peux pas encaisser. Tu peux pas encaisser, c'est moi qui encaisse, donc je peux le consommer. Demande la Gemara, mais Maaser Sheni. Donc le Maaser Sheni, c'est le Maaser qu'on doit consommer à Yerushalayim. Nafreshu venisku venechlo Yerushalayim. On devrait faire l'afracha, le prélèvement, et aller à Yerushalayim, et le consommer à Yerushalayim. Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de le manger? On a un interdit de le consommer en dehors de Yerushalayim. Comment se fait-il que tu me le permets de le consommer en Yerushalayim? Amaroula, mitor chez Paredrin, et c'était ça l'importance de la Gemara, le terme Paredrin, mitor chez Paredrin, donc c'est fonctionnaire. Choftin otan, il frappait les boulangers, kol shnemasa chodesh, tous les ans, puisqu'on a dit que c'était à chaque fois des nouveaux, donc celui qui prenait ses fonctions, il voulait tout de suite marquer le coup, c'est le cas de le dire, marquer le coup. Veombrinen mechoubezol, il est forcé à vendre moins cher, donc loatrechoa rabanan, c'est pour ça que rabanan n'ont pas voulu imposer aux boulangers de monter à Yerushalayim. C'est-à-dire, dans l'absolu, on est persuadé que la majorité des Amé Aratzot, le Rov, faisait ce prélèvement. Puisqu'on a une majorité, donc le Safek qu'on a, c'est un Safek qui est en vérité tranché Minatora, parce qu'on va aller d'après le Rov, et donc on peut considérer qu'il n'y a pas d'obligation, et donc j'ai le droit de le consommer en dehors de Yerushalayim. Midérabanan, on a pris en considération le mi-août, et c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a ça quand même des prélèvements à faire, comme le tourmat maaser ou comme la fachat chala, ce qui va au Kohen, mais c'est seulement midérabanan, et puisque c'est seulement midérabanan. Rabbanan ont pris en considération le manque de parnassa de ces boulangers. Ils ont dit, bon, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à aller le consommer à Yerushalayim. Maïparedrin, pour c'est. Donc là, on termine par traduire le mot paredrin. Pour c'est ce que j'ai dit, c'est des fonctionnaires. On va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, on a commencé par essayer de mettre en parallèle la machloquette qu'on avait vue hier entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, Rav Nachman et Rav Shechet. On voulait faire aussi Rabbi Meir et Rabbi Yossi, à savoir est-ce que Touma Utra Betzibur ou Touma Trouya Betzibur. On a conclu que tout le monde pensait que Touma Trouya Betzibur et la machloquette, est-ce qu'on le fait le troisième et le septième jour ou est-ce qu'on le fait tous les jours? C'est est-ce que Azaa Bismana Mitzvah, c'est-à-dire est-ce que asperger quelqu'un d'eau quand ça peut être fait, est-ce que c'est une obligation ou pas? D'après Rabbi Meir, oui, donc on va essayer de le faire tout le temps. D'après Rabbi Yossi, non, et c'est pour ça qu'on se suffit du troisième et du septième jour. On a vu l'avis de Rabbi Chaïna Sgana Kohanim qui nous dit qu'avant Kippour, on n'a pas besoin de le faire tous les jours, troisième et septième jour, c'est suffisant. Il pense comme Rabbi Yossi, ah, pourquoi est-ce que dans Parah, il faut tous les sept jours? Ma'ala be'alma. On a vu aussi que d'après Rabbi Meir et Rabbi Yossi, Tvila, se tremper, pas à Tvila, Bismana Mitzvah, donc dès qu'on peut aller se tremper, il faut absolument le faire. On a expliqué que quand il y a marqué sept jours, c'était sans compter Shabbat et sans compter le quatrième jour, puisqu'il n'y avait aucun sens de dire que le quatrième jour on fasse Azaa. Lishkat Paredrin ne s'appelait pas comme ça au départ, elle s'appelait Lishkat Balvati, les gens importants, mais après que c'est devenu quelque chose qui était zol, quelque chose qui était acheté par des gens, donc ça s'appelait Lishkat Paredrin des fonctionnaires. Et on a ramené une Mishnah où on voyait ce terme de fonctionnaire utilisé au sujet du Dmaï. La seule obligation que les boulangers ont, c'est de faire la tourmat maaser, le prélèvement que le Lévi doit faire pour le Kohen, et la Afrachatrala, le prélèvement que nous, on doit faire pour le Kohen. C'est la seule obligation. Les autres obligations, ils ne sont pas obligés. Pourquoi est-ce que maaser, chéni, ne sont pas obligés? Rachamim ont vu que c'était des dépenses qui étaient difficiles pour eux, donc c'est pour ça qu'ils ne les ont pas obligés à faire ce prélèvement. Daf et Claire, Baruch HaShem. N'oubliez pas de faire Hazara. Et à demain, Bezrat HaShem.